Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, 8e partie, dialogue 18 et 19.
Jusqu'à présent, vous ne vous êtes occupé que des formes de votre gouvernement et des lois de rigueur nécessaires pour le maintenir. C'est beaucoup. Ce n'est rien encore. Il vous reste à résoudre le plus difficile de tous les problèmes pour un souverain qui veut affecter le pouvoir absolu dans un État européen, façonné aux mœurs représentatives.
Quel est donc ce problème ?
C'est celui de vos finances.
Cette question n'est pas restée étrangère à mes préoccupations, car je me souviens de vous avoir dit que tout en définitive se résoudrait par une question de chiffres.
Fort bien, mais ici c'est la nature même des choses qui va vous résister.
Vous m'inquiétez, je l'avoue, car je date d'un siècle de barbarie sous le rapport de l'économie politique, et j'entends fort peu de choses à ces matières.
Je me rassure pour vous. Permettez-moi toutefois de vous adresser une question. Je me souviens d'avoir écrit, dans l'esprit des lois, que le monarque absolu était astreint, par le principe de son gouvernement, à n'imposer que de faibles tributs à ses sujets. Donnerez-vous du moins aux vôtres cette satisfaction ?
Je ne m'y engage pas, et je ne connais rien en vérité de plus contestable que la proposition que vous avez émise là. Comment voulez-vous que l'appareil du pouvoir monarchique, l'éclat et la représentation d'une grande cour, puissent exister sans imposer à une nation de lourds sacrifices ? Votre thèse peut être vraie en Turquie, en Perse, que sais-je, chez le petit peuple, sans industrie, qui n'aurait d'ailleurs pas le moyen de payer l'impôt. Mais dans les sociétés européennes, où la richesse déborde des sources du travail et se présente sous tant de formes à l'impôt, où le luxe est un moyen de gouvernement, où l'entretien et la dépense de tous les services publics sont centralisés entre les mains de l'État, où toutes les hautes charges, toutes les dignités sont salariées à grands frais, comment voulez-vous, encore une fois, que l'on se borne à de modiques tributs, comme vous dites, quand avec cela on est souverain maître.
C'est très juste, et je vous abandonne ma thèse, dont le véritable sens vous a d'ailleurs échappé. Ainsi, votre gouvernement coûtera cher. Il est évident qu'il coûtera plus cher qu'un gouvernement représentatif.
C'est possible.
Oui, mais c'est ici que commence la difficulté. Je sais comment les gouvernements représentatifs pourvoient à leurs besoins financiers, mais je n'ai aucune idée des moyens d'existence du pouvoir absolu dans les sociétés modernes. Si j'interroge le passé, je vois très clairement qu'il ne peut subsister qu'aux conditions suivantes. Il faut, en premier lieu, que le monarque absolu soit un chef militaire. Vous le reconnaissez sans doute.
Oui.
Il faut de plus qu'il soit conquérant, car c'est à la guerre qu'il doit demander les principales ressources qui lui sont nécessaires pour entretenir son faste et ses armées. S'il les demandait à l'impôt, il écraserait ses sujets. Vous voyez par là que ce n'est pas parce que le monarque absolu dépense moins qu'il doit ménager les tributs, mais parce que la loi de sa subsistance est ailleurs. Or, aujourd'hui, la guerre ne rapporte plus de profit à ceux qui la font. Elle ruine les vainqueurs aussi bien que les vaincus. Voilà une source de revenus qui vous échappe. Restent les impôts. Mais, bien entendu, le prince absolu doit pouvoir se passer, à cet égard, du consentement de ses sujets. Dans les États despotiques, il y a une fiction légale qui leur permet de les taxer discrétionnairement. En droit, le souverain est censé posséder tous les biens de ses sujets. Quand il leur prend quelque chose, il ne fait donc que reprendre ce qui lui appartient. De la sorte, point de résistance. Enfin, il faut que le prince puisse disposer, sans discussion comme sans contrôle, des ressources que lui a procurées l'impôt. Tels sont, en cette matière, les errements inévitables de l'absolutisme. Convenez qu'il y aurait beaucoup à faire pour en revenir là. Si les peuples modernes sont aussi indifférents que vous le dites à la perte de leur liberté, il n'en sera pas de même quand il s'agira de leurs intérêts. Leurs intérêts sont liés à un régime économique exclusif du despotisme. Si vous n'avez pas l'arbitraire en finance, vous ne pouvez pas l'avoir en politique. Votre règne entier s'écroulera sur le chapitre des budgets.
Oh, je suis fort tranquille sur ce point comme sur le reste.
C'est ce qu'il faut voir. Allons au fait. Le vote des impôts, par les mandataires de la nation, est la règle fondamentale des États modernes. Accepterez-vous le vote de l'impôt ?
Pourquoi non ?
Oh, prenez garde ! Ce principe est la consécration la plus expresse de la souveraineté de la nation. Car lui reconnaître le droit de voter l'impôt, c'est lui reconnaître celui de le refuser, de le limiter, de réduire à rien les moyens d'action du prince et, par suite, de l'anéantir lui-même au besoin.
Vous êtes catégorique. Continuez.
Ceux qui votent l'impôt sont eux-mêmes des contribuables. Ici, leurs intérêts sont étroitement solidaires de ceux de la nation en un point où elle aura nécessairement les yeux ouverts. Vous allez trouver ces mandataires aussi peu accommodants sur les crédits législatifs que vous les avez trouvés faciles sur le chapitre des libertés.
C'est ici que la faiblesse de l'argument se découvre. Je vous prie de prendre note de deux considérations que vous avez oubliées. En premier lieu, les mandataires de la nation sont salariés. Contribuables ou non, ils sont personnellement désintéressés dans le vote de l'impôt.
Je conviens que la combinaison est pratique et la remarque judicieuse.
Vous voyez l'inconvénient d'envisager trop systématiquement les choses. La moindre modification habile fait tout varier. Vous auriez peut-être raison si j'appuyais mon pouvoir sur l'aristocratie ou sur les classes bourgeoises qui pourraient à un moment donné me refuser leur concours. Mais en second lieu, j'ai pour base d'action le prolétariat dont la masse ne possède rien. Les charges de l'État ne pèsent presque pas sur elle, et je ferai même en sorte qu'elles n'y pèsent pas du tout. Les mesures fiscales préoccuperont peu les classes ouvrières. Elles ne les atteindront pas.
Si j'ai bien compris, ceci est très clair. Vous faites payer à ceux qui possèdent par la volonté souveraine de ceux qui ne possèdent pas. C'est la rançon que le nombre et la pauvreté imposent à la richesse.
N'est-ce pas juste ?
Ce n'est pas même vrai, car dans les sociétés actuelles, au point de vue économique, il n'y a ni riche ni pauvre. L'artisan de la veille est le bourgeois du lendemain, en vertu de la loi du travail. Si vous atteignez la bourgeoisie territoriale ou industrielle, savez-vous ce que vous faites ? Vous rendez en réalité l'émancipation par le travail plus difficile. Vous retenez un plus grand nombre de travailleurs dans les liens du prolétariat. C'est une aberration que de croire que le prolétaire peut profiter des atteintes portées à la production. En appauvrissant par des lois fiscales ceux qui possèdent, on ne crée que des situations factices. Et dans un temps donné, on appauvrit même ceux qui ne possèdent pas.
Oh, ce sont de belles théories, mais je suis bien décidé à vous en imposer de tout aussi belles, si vous le voulez.
Non, car vous n'avez pas encore résolu le problème que je vous ai posé. Obtenez d'abord de quoi faire face aux dépenses de la souveraineté absolue. Ce ne sera pas si facile que vous le pensez, même avec une chambre législative dans laquelle vous aurez la majorité assurée, même avec la toute-puissance du mandat populaire dont vous êtes investi. Dites-moi, par exemple, comment vous pourrez plier le mécanisme financier des États modernes aux exigences du pouvoir absolu ? Je vous le répète, c'est la nature même des choses qui résiste ici. Les peuples policés de l'Europe ont entouré l'administration de leurs finances de garanties si étroites, si jalouses, si multipliées, qu'elles ne laissent pas plus de place à la perception qu'à l'emploi arbitraire des deniers publics.
Et quel est donc ce merveilleux système ?
Je peux vous l'indiquer en quelques mots. La perfection du système financier, dans les temps modernes, repose sur deux bases fondamentales. Le contrôle et la publicité. C'est là que réside essentiellement la garantie des contribuables. Un souverain ne pourrait pas y toucher sans dire indirectement à ses sujets « Vous avez l'ordre, je veux le désordre. Je veux l'obscurité dans la gestion des fonds publics. J'en ai besoin parce qu'il y a une foule de dépenses que je veux pouvoir faire sans votre approbation, de déficits que je veux pouvoir masquer, de recettes que je veux avoir le moyen de déguiser ou de grossir suivant les circonstances.
Vous débutez bien.
Dans les pays libres et industrieux, tout le monde sait les finances par nécessité, par intérêt et par état. Et votre gouvernement, à cet égard, ne pourrait tromper personne.
Et qui vous dit qu'on veuille tromper ?
Tout l'œuvre de l'administration financière, si vaste et si compliquée qu'elle soit, dans ses détails, aboutit, en dernière analyse, à deux opérations fort simples. Recevoir et dépenser. C'est autour de ces deux ordres de faits financiers que gravite la multitude des lois et des règlements spéciaux qui ont encore pour objet une chose fort simple. Faire en sorte que le contribuable ne paye que l'impôt nécessaire et régulièrement établi. Faire en sorte que le gouvernement ne puisse appliquer les fonds publics qu'à des dépenses approuvées par la nation. Je laisse de côté tout ce qui est relatif à l'assiette et au mode de perception de l'impôt, aux moyens pratiques d'assurer l'intégralité de la recette, l'ordre et la précision dans le mouvement des fonds publics. Ce sont là des détails de comptabilité dont je n'ai point à vous entretenir. Je veux simplement vous montrer comment la publicité marche avec le contrôle dans les systèmes de finances politiques les mieux organisés de l'Europe. Un des problèmes les plus importants à résoudre était de faire sortir de l'obscurité, de rendre visible à tous les yeux les éléments de recettes et de dépenses sur lesquels est basé l'emploi de la fortune publique entre les mains des gouvernements. Ce résultat a été atteint par la création de ce que l'on appelle, en langue moderne, le budget de l'État, qui est l'aperçu ou l'état estimatif des recettes et des dépenses, prévu non pas pour une période de temps éloignée, mais chaque année pour le service de l'année suivante. Le budget annuel est donc le point capital, et en quelque sorte générateur de la situation financière qui s'améliore ou s'aggrave en proportion de ses résultats constatés. Les parties qui le composent sont préparées par les différents ministres dans le département desquels les services à pouvoir sont placés. Ils prennent pour base de leur travail les allocations des budgets antérieurs, en y introduisant les modifications, additions et retranchements nécessaires. Le tout est adressé au ministre des Finances, qui centralise les documents qui sont transmis et qui présente à l'Assemblée législative ce que l'on appelle le projet du budget. Ce grand travail publié, imprimé, reproduit dans 1000 journaux, dévoile à tous les yeux la politique intérieure et extérieure de l'État, l'administration civile, judiciaire et militaire. Il est examiné, discuté et voté par les représentants du pays, après quoi il est rendu exécutoire de la même manière que les autres lois de l'État.
Permettez-moi d'admirer avec quelle netteté de déduction et quelle propriété de terme, tout à fait moderne, l'illustre auteur de l'esprit des lois a su se dégager en matière de finances des théories un peu vagues et des termes quelquefois un peu ambigus du grand ouvrage qu'il a rendu immortel.
L'esprit des lois n'est pas un traité de finances.
Votre sobriété sur ce point mérite d'autant plus d'être louée que vous auriez pu en parler très compétemment. Veuillez donc continuer, je vous prie. Je vous suis avec le plus grand intérêt.
La création du système budgétaire a entraîné, on peut le dire, avec elle toutes les autres garanties financières qui sont aujourd'hui le partage des sociétés politiques bien réglées. Ainsi, la première loi qui se trouve nécessairement imposée par l'économie du budget, c'est que les crédits demandés soient en rapport avec les ressources existantes. C'est là un équilibre qui doit se traduire constamment aux yeux par des chiffres réels et authentiques. Et pour mieux assurer cet important résultat, pour que le législateur qui vote sur les propositions qui lui sont faites ne subisse aucun entraînement, on a eu recours à une mesure très sage. On a divisé le budget général de l'État en deux budgets distincts, le budget des dépenses et le budget des recettes, qui doivent être votés séparément, chacun par une loi spéciale. De cette manière, l'attention du législateur est obligée de se concentrer tour à tour, isolément, sur la situation active et passive. Et ces déterminations ne sont pas à l'avance influencées par la balance générale des recettes et des dépenses. Il contrôle scrupuleusement ces deux éléments. Et c'est, en dernier lieu, de leur comparaison, de leur étroite harmonie, que naît le vote général du budget.
Tout cela est fort bien, mais est-ce que par hasard, les dépenses sont renfermées dans un cercle infranchissable par le vote législatif ? Est-ce que cela est possible ? Est-ce qu'une chambre peut, sans paralyser l'exercice du pouvoir d'exécutif, défendre au souverain de pourvoir par des mesures d'urgence à des dépenses imprévues ?
Je vois bien que cela vous gêne, mais je ne puis le regretter.
Est-ce que dans les États constitutionnels eux-mêmes, la faculté n'est pas formellement réservée au souverain d'ouvrir par ordonnance des crédits supplémentaires ou extraordinaires dans l'intervalle des sessions législatives ?
C'est vrai, mais à une condition, c'est que ces ordonnances soient converties en loi à la réunion des chambres. Il faut que leur approbation intervienne.
Que l'intervienne une fois que la dépense est engagée pour ratifier ce qui est fait, je ne trouverai pas mauvais.
Je le crois bien, mais malheureusement, on ne s'en est pas tenu là. La législation financière moderne, la plus avancée, interdit de déroger aux prévisions normales du budget, autrement que par des lois portant ouverture de crédits supplémentaires et extraordinaires. La dépense ne peut plus être engagée sans l'intervention du pouvoir législatif.
Mais alors on ne peut même plus gouverner ?
Il paraît que si. Les États modernes ont réfléchi que le vote législatif du budget finirait par être illusoire, avec les abus des crédits supplémentaires et extraordinaires, qu'en définitive la dépense devait pouvoir être limitée, quand les ressources l'étaient naturellement, que les événements politiques ne pouvaient faire varier les faits financiers d'un instant à l'autre, et que l'intervalle des sessions n'était pas assez long pour qu'il ne fût pas toujours possible d'y pourvoir utilement par un vote extra-budgétaire. On est allé plus loin encore. On a voulu qu'une fois les ressources votées pour tels et tels services, elles puissent revenir au trésor si elles n'étaient pas employées. On a pensé qu'il ne fallait pas que le gouvernement, tout en restant dans les limites des crédits alloués, puisse employer les fonds d'un service pour les affecter à un autre. Couvrir celui-ci, découvrir celui-là, au moyen de virements de fonds opérés de ministère à ministère par voie d'ordonnance, car ce serait éluder leur destination législative et revenir, par un détour ingénieux, à l'arbitraire financier. On a imaginé à cet effet ce que l'on appelle la spécialité des crédits par chapitre, c'est-à-dire que le vote des dépenses a lieu par chapitres spéciaux, ne contenant que des services corrélatifs et de même nature pour tous les ministères. Ainsi, par exemple, le chapitre A comprendra, pour tous les ministères, la dépense A. Le chapitre B, la dépense B, et ainsi de suite. Il résulte de cette combinaison que les crédits non employés doivent être annulés dans la comptabilité des divers ministères et reportés en recettes au budget de l'année suivante. Je n'ai pas besoin de vous dire que la responsabilité ministérielle est la sanction de toutes ces mesures. Ce qui forme le couronnement des garanties financières, c'est l'établissement d'une chambre des comptes, sorte de cour de cassation dans son genre, chargée d'exercer, d'une manière permanente, les fonctions de juridiction et de contrôle sur le compte, le maniement et l'emploi des deniers publics, ayant même pour mission de signaler les parties de l'administration financière qui peuvent être améliorées au double point de vue des dépenses et des recettes. Ces explications suffisent. Ne trouvez-vous pas qu'avec une organisation comme celle-là, le pouvoir absolu serait bien embarrassé ?
Je suis encore atterré, je vous l'avoue, de cette incursion financière. Vous m'avez pris par mon côté faible. Je vous ai dit que je n'entendais fort peu à ces matières. Mais j'aurais, croyez-le bien, des ministres qui sauraient rétorquer tout cela et démontrer le danger de la plupart de ces mesures.
Ne le pourriez-vous pas un peu vous-même ?
Si fait, à mes ministres, le soin de faire de belles théories. Ce sera leur principale occupation. Quant à moi, je vous parlerai finance plutôt en politique qu'en économiste. Il y a une chose que vous êtes trop porté à oublier. C'est que la matière des finances est, de toutes les parties de la politique, celle qui se prête le plus aisément aux maximes du traité du prince. Ces États qui ont des budgets si méthodiquement ordonnés et des écritures officielles si bien en règle me font l'effet de ces commerçants qui ont des livres parfaitement tenus et se ruinent bel et bien finalement. Qui donc a le plus gros budget que vos gouvernements parlementaires ? Qu'est-ce qui coûte plus cher que la République démocratique aux États-Unis et que la République royale d'Angleterre ? Il est vrai que les immenses ressources de cette dernière puissance sont mises au service de la politique, la plus profonde et la mieux entendue.
Vous n'êtes pas dans la question. À quoi voulez-vous en venir ?
À ceci. C'est que les règles de l'administration financière des États n'ont aucun rapport avec celles de l'économie domestique qui paraît être le type de vos conceptions.
La même distinction qu'entre la politique et la morale ?
Eh bien oui, cela n'est-il pas universellement reconnu, pratiqué ? Les choses n'étaient-elles pas ainsi même de votre temps, beaucoup moins avancées cependant sous ce rapport ? Et n'est-ce pas vous-même qui avez dit que les États se permettaient en finance des écarts dont rougirait le fils de famille le plus déréglé ?
C'est vrai, j'ai dit cela. Mais si vous en tirez un argument favorable à votre thèse, c'est une véritable surprise pour moi.
Ah, vous voulez dire sans doute qu'il ne faut pas se prévaloir de ce qui se fait, mais de ce qui doit se faire.
Précisément.
Je réponds qu'il faut vouloir le possible et que ce qui se fait universellement ne peut pas se faire.
Ceci est la pratique pure, j'en conviens.
Et j'ai quelque idée que si nous faisions la balance des comptes, comme vous dites, mon gouvernement, tout absolu qu'il est, coûterait moins cher que le vôtre. Mais laissons cette dispute qui serait sans intérêt. Vous vous trompez vraiment bien si vous croyez que je m'afflige de la perfection des systèmes de finances que vous venez de m'expliquer. Je me réjouis avec vous de la régularité, de la perfection de l'impôt, de l'intégralité de la recette. Je me réjouis de l'exactitude des comptes. Je m'en réjouis très sincèrement. Croyez-vous donc qu'il s'agisse pour le souverain absolu mettre les mains dans les coffres de l'État, de manier lui-même les derniers publics ? Ce luxe de précaution est vraiment puéril. Est-ce que le danger est là ? Tant mieux, encore une fois, si les fonds se recueillent, se meuvent et circulent avec la précision miraculeuse que vous m'avez annoncée. Je compte justement faire servir à la splendeur de mon règne toutes ces merveilles de comptabilité, toutes ces beautés organiques de la matière financière.
Vous avez le vis comica. Ce qu'il y a de plus étonnant pour moi dans vos théories financières, c'est qu'elles sont en contradiction formelle avec ce que vous dites à cet égard dans le traité du prince, où vous recommandez sévèrement non pas seulement l'économie en finance, mais même l'avarice.
Si vous vous en étonnez, vous avez tort. Car sous ce point de vue, les temps ne sont plus les mêmes. Et l'un de mes principes les plus essentiels est de m'accommoder au temps. Revenons et laissons d'abord un peu de côté, je vous prie, ce que vous m'avez dit de votre chambre des comptes. Cette institution appartient à l'ordre judiciaire ?
Non.
C'est donc un corps purement administratif. Je le suppose parfaitement irréprochable. Mais la belle avance, quand il a vérifié tous les comptes, empêche-t-il que les crédits ne se votent, que les dépenses ne se fassent ? Ces arrêts de vérification n'en apprennent pas plus sur la situation que les budgets. C'est une chambre d'enregistrement sans remontance, c'est une institution ingénue. N'en parlons donc pas. Je la maintiens sans inquiétude, telle qu'elle peut être.
Vous la maintenez, dites-vous? Vous comptez donc toucher aux autres parties de l'organisation financière?
Vous n'en doutiez pas, j'imagine. Est-ce qu'après un coup d'État politique, un coup d'État financier n'est pas inévitable? Est-ce que je ne me servirai pas de toute la puissance pour cela comme pour le reste? Quelle est donc la vertu magique qui préserverait vos règlements financiers? Je suis comme ce géant de je ne sais quel conte que des pygmées avaient chargé d'entraves pendant son sommeil. En se relevant, il les brisa sans s'en apercevoir. Au lendemain de mon avènement, il ne sera même pas question de voter le budget. Je le décréterai extraordinairement. J'ouvrirai dictatorialement les crédits nécessaires et je les ferai approuver par mon Conseil d'État.
Et vous continuerez ainsi?
Non pas. Dès l'année suivante, je rentrerai dans la légalité. Car je n'entends rien détruire directement, je vous l'ai dit plusieurs fois déjà. On a réglementé avant moi. Je réglemente à mon tour. Vous m'avez parlé du vote du budget par deux lois distinctes. Je considère cela comme une mauvaise mesure. On se rend bien mieux compte d'une situation financière quand on vote en même temps le budget des recettes et le budget des dépenses. Mon gouvernement est un gouvernement laborieux. Il ne faut pas que le temps si précieux des délibérations publiques se perde en discussions inutiles. Dorénavant, le budget des recettes et celui des dépenses seront compris dans une seule loi.
Bien. Et la loi qui interdit d'ouvrir des crédits supplémentaires autrement que par un vote préalable de la Chambre?
Je l'abroge. Vous en comprenez assez la raison.
Oui.
C'est une loi qui serait inapplicable sous tous les régimes.
Et la spécialité des crédits, le vote par chapitre?
Il est impossible de le maintenir. On ne votera plus le budget des dépenses par chapitre, mais par ministère.
Cela me paraît gros comme une montagne, car le vote par ministère ne donne pour chacun d'eux qu'un total à examiner. C'est se servir, pour tamiser les dépenses publiques, d'un tonneau sans fond au lieu d'un crible.
Non, ce n'est pas exact, car chaque crédit porté en bloc présente des éléments distincts, des chapitres, comme vous dites. On les examinera si on veut, mais on votera par ministère, avec faculté de virement d'un chapitre à un autre.
Et de ministère à ministère?
Non, je ne vais pas jusque-là. Je veux rester dans les limites de la nécessité.
Vous êtes d'une modération accomplie. Et vous croyez que ces innovations financières ne jetteront pas l'alarme dans le pays?
Pourquoi voulez-vous qu'elles alarment plus que mes autres mesures politiques?
Mais parce que celles-ci touchent aux intérêts matériels de tout le monde.
Oh, ce sont là des distinctions bien subtiles.
Subtiles. Je trouve le mot bien choisi. N'y mettez donc pas de subtilité vous-même, et dites simplement qu'un pays qui ne peut pas défendre ses libertés ne peut pas défendre son argent.
Mais de quoi pourrait-on se plaindre, puisque j'ai conservé les principes essentiels du droit public en matière financière? Est-ce que l'impôt n'est pas régulièrement établi, régulièrement perçu? Les crédits régulièrement votés? Est-ce qu'ici, comme ailleurs, tout ne s'appuie pas sur la base du suffrage populaire? Non, sans doute, mon gouvernement n'est pas réduit à l'indigence. Le peuple qui m'a acclamé, non seulement souffre aisément l'éclat du trône, mais il le veut, il le recherche dans un prince qui est l'expression de sa puissance. Il ne hait réellement qu'une chose, c'est la richesse de ses égaux.
Ne vous échappez pas encore. Vous n'êtes pas au bout. Je vous ramène d'une main inflexible au budget. Quoi que vous disiez, son organisation même comprime le développement de votre puissance. C'est un cadre qu'on peut franchir, mais on ne le franchit qu'à ses risques et périls. Il est publié, on en connaît les éléments, il reste là comme le baromètre de la situation.
Finissons-en donc sur ce point, puisque vous le voulez. Thank you.